me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres.
On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France, auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire.
Notre reporter, José Sétien, a retrouvé un revenant, un certain Alain Gesmard.
Une autre société était possible puisqu'on le vivait. D'autres même qui vivent apparemment, normalement ou comme d'habitude, en fait dans leur rapport avec leurs gosses ou entre eux, des tas de choses ont changé. Quand il y a une lutte dans une usine ou dans un secteur, les femmes, les homosexuels, les soldats, ça c'est radicalement neuf. Ce qui a été nouveau en mai, c'est-à-dire l'expression directe des gens, sans passer par l'intermédiaire de groupes organisés, de partis ou de syndicats, l'action directe pour intervenir sur le changement de leurs conditions de vie ou de travail.
Si je vous demandais en quelques mots, mettons même en une phrase, de me résumer mes 68, qu'est-ce que vous me diriez ?
Oh, je crois que c'est le rire de Danny Cohn-Bendit en face des CRS, c'est la joie, une envie de vivre à en mourir.
Qu'est-ce que la tempête de 68 ? Comment la Chine des années 1960 a-t-elle pu entrer en résonance synchronisée avec les agitations françaises alors que le pays était enfermé hermétiquement sous Mao, demande le linguiste et critique social Chu Chao-chun. Qu'est-ce qui était su et senti par les Chinois des grands mouvements de 1968 et de la Révolution parisienne ? Quel rôle a joué le quotidien du peuple en Chine ? Et quels ennemis du mouvement insurrectionnel français a-t-il désigné ? Comment les Sauvageot et Cohn-Bendit ont-ils été ignorés en Chine comme leaders au profit d'un Jacques Jurquet du PC marxiste-léniniste de France, secrétaire général de l'Humanité Nouvelle ? Quels sont les risques de remplacer l'espace-temps quand on aborde l'histoire des mouvements de 1968 ? Demande encore le linguiste. Professeur titulaire à l'université Fudan à Shanghai en Chine, Chu Chao-chun est reçu par Han Cheng au Collège de France en cette année anniversaire du cinquantenaire de mai 1968. Il nous propose un regard décalé et stimulant de la Chine à la France sur les événements de mai. Il y entre l'interrogation de la propagande dans la douloureuse Chine de la révolution culturelle. En écoutant cette conférence, j'ai songé à une page de l'écrivain journaliste François Mauriac en octobre 1964, suite à un reportage du grand magazine d'actualité télévisé 5 colonnes à la une, et je le cite. La Chine d'aujourd'hui, nous vivons quelques instants au plus épais de ce peuple ressuscité. Mais est-il composé d'êtres vivants et qui ont une vie personnelle ? On dirait des insectes. C'est admirable et c'est horrible. Je pense à ces slogans « L'honneur de Mao » qui ne cessent de retentir durant les 12 heures de travail et qui continuent tout au long des repas. Ce serait à pleurer de pitié cette humanité condamnée à se gargariser de Mao dès la pouponnière, qui vit et mange et qui se distrait sans presque quitter l'usine, si nous ne sentions que l'abus même de la propagande l'a rendue inoffensive. Ce peuple de fourmis circule à travers les haut-parleurs et les portraits géants de Mao, sans plus rien entendre et sans plus rien voir. Mais qu'on est content de contempler une chambre, un lit, où l'homme et la femme chinoise se retrouvent enfin et se rejoignent toute lampe éteinte pour que le portrait de Mao ne les regarde pas s'aimer. Et nous gagnons le Collège de France le 7 juin 2018 pour la conférence de Chu Chaochun, mai 68, vue de Chine.
Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes ici au Collège de France pour accueillir avec grand plaisir, et c'est aussi un grand honneur pour nous, le professeur Chu Chaochun de l'université Fudan de Shanghai. Je vais donc vous dire quelques mots pour présenter donc le professeur Chu, qui est né en 1954 à Shanghai. C'est un vrai Shanghaïen. Ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare de nos jours, et qui a été formé dans les années post-révolution culturelle à l'école normale de Chine orientale, donc Huadongshifan Dashue de Shanghai. Et ensuite, il est venu en France pour faire des études universitaires dans les années 1980, à l'Université de Provence, où il a obtenu son doctorat en linguistique française. Donc, comme vous le verrez, le professeur Chu est parfaitement francophone, et en tant que linguiste de formation, il a publié 8 ouvrages et une cinquantaine d'articles dont je n'ai pas le temps de vous faire le détail, dans des revues spécialisées en chinois, en français et en anglais. Donc le professeur Chu est non seulement francophone mais un vrai polyglotte. Des articles sur les questions linguistiques en français et en chinois. Il a également effectué et publié des études sur des problèmes d'échange interculturel et de traduction entre la Chine et, on pourrait dire, en général, le monde occidental. Et chose tout à fait remarquable, il a une expérience lui-même de traducteur, et pas des moindres, puisqu'il est le traducteur en chinois des écrits de Jacques Lacan. Alors, je vous recommande la lecture de Jacques Lacan en chinois, parce que c'est beaucoup plus clair qu'en français. On comprend enfin quelque chose. Bon. Alors, depuis 1987, donc ça fait, si je compte bien, à peu près 40 ans, donc le professeur Chu est professeur donc à l'université Fudan de Shanghai, où il est actuellement professeur titulaire au Collège de langues et littératures étrangères, dont il a été le doyen pendant plusieurs années. Le professeur Chu a également exercé de hautes responsabilités au ministère de l'Éducation en Chine. Et d'un autre côté, comme je l'ai rappelé, Monsieur Chu est parfaitement francophone et cultive donc des relations tout à fait privilégiées avec la France, qu'il a fait chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques en 2007. Il a été, entre autres, chercheur attaché au Centre de recherche linguistique sur l'Asie orientale du CNRS et professeur associé au département Chine de l'INALCO. Il a contribué à nombre de volumes collectifs publiés en France, dont un article remarqué que je me permets de signaler, puisque c'est un article qui est paru dans un volume que j'ai dirigé aux éditions Gallimard, qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui ». Certains d'entre vous l'ont peut-être vu. Et plus récemment, il y a un autre article tout à fait intéressant aussi, dans un volume dirigé par Barbara Cassin qui s'intitule « Après Babel, virgule, traduire », paru aux éditions Actes Sud en 2016. Et donc le professeur Chou va nous parler aujourd'hui de mai 68, vu de Chine, donc sujet qu'il a abordé dans un article dont je vous recommande la lecture et que vous trouverez en principe en ligne, en accès libre, qui s'intitule « De quoi la révolution culturelle est-elle le nom ?» Article paru dans l'excellente revue que je ne cesse de recommander, Perspectives chinoises, dans le numéro 4 de l'année 2016. Alors, avant de laisser la parole au professeur Chou, il y a donc ce petit rituel destiné à accueillir nos conférenciers invités venus de loin, qui consiste donc à la remise d'une médaille. Ce ne sont pas les palmes académiques.
Très honoré, très honoré.
Bienvenue parmi nous.
Merci. Merci à Anne Chen de m'avoir invité dans ce haut lieu très prestigieux de la connaissance et du savoir. Et je vous aussi remercie d'être venu aussi nombreux avec le temps magnifique dehors. Donc, mon sujet est le mai 68. Donc, je pensais que c'était un sujet assez vieux, mais en arrivant en France, je me suis rendu compte que c'est encore de l'actualité parce que dans les librairies, il y a beaucoup, beaucoup de publications sur cet événement en France, il y a 50 ans. Donc peut-être ce que je vais vous dire pourrait peut-être avoir certain intérêt pour vous. Donc le mai 68, vu de la Chine. Comment les Chinois voient le mai 68 ? On peut commencer par le nom que les Chinois utilisent pour appeler ce mouvement en France. Si le français désigne cet événement par le nom du mois où il s'est apparu, les Chinois le nomment par un terme météorologique, la tempête du mai. C'est le nom consacré du mai 68 pour les Chinois et par les Chinois. En réalité, c'était un éditorial du quotidien du peuple qui le baptisait ainsi lors de l'événement. Donc vous voyez, pour ceux d'entre vous qui peuvent lire le chinois, font pas à la tempête. À la tempête. Cette dénomination métaphorique implique déjà une certaine appréciation du mouvement violent, massif, irrésistible et naturel. Parce que personne n'est à l'origine d'une tempête, rien ne peut infléchir son arrivée, son déroulement et sa disparition. Mais il n'y a pas une indication dedans d'une réalité humaine de l'événement. La même astuce terminologique a été aussi fréquemment utilisée en Chine quand on parle de la révolution culturelle chez nous. Dans beaucoup de biographies des artistes, des intellectuels, des écrivains, des hommes politiques publiés à nos jours en Chine, on peut très souvent trouver ce genre d'expression pudique. Il est mort dans la tempête du 66, où il a subi des souffrances atroces pendant la tempête de 66. Voilà, ce genre d'expressions sont très, très courants quand on parle de la vie des gens qui ont subi les souffrances ou même mort pendant la révolution culturelle. Le choix identique du nom employé pour ces deux événements révèle un certain rapprochement dans l'esprit des gens. En effet, beaucoup de monde ont l'habitude de mettre ces deux événements dans une même catégorie. Même sans recours au choix de dénomination, le lien entre ces deux événements semble relever d'une évidence, aussi bien pour les historiens que pour le grand public du monde entier. L'historien anglais Hobsbawm, dans son histoire du XXe siècle intitulée « Les années des extrêmes », il parle de mouvements estudiantins à l'échelle mondiale qui constituent selon lui un développement politique le plus dramatique dans les années 60 et 70 du siècle dernier. Force est de constater que présenter le mai 68 en France et la révolution culturelle en Chine dans le même cadre a pu fournir au public une certaine facilité de vision pour comprendre la deuxième moitié du XXe siècle, a pu aussi servir à l'élaboration de certains discours théoriques sur la marche de l'histoire d'alors et maintenant. Mais la grandeur de ce mirage discursif et le plaisir de souvenir retravailler qu'une telle narration globale a pu procurer aux théoriciens de la Révolution et aux nostalgiques de tout genre risque fort d'être gâché par ce que Michel Foucault a appelé la grande colère des faits si l'on prend le temps à examiner un petit peu les archives de l'époque pour essayer de voir ce que les Chinois ont aperçu et compris de ces événements en France et de vérifier ce qui existe comme lien entre le mai 68 en France et la Chine de la révolution culturelle. Notre démarche ici pourrait paraître convenable parce que l'on dit souvent qu'il faut certaines distances pour bien apprécier un événement historique et pour ne pas être ébloui par le grouillement des anecdotes du moment. Mais le mai 68, après un demi-siècle, est vu de la Chine, plus de 10 000 km de loin, et c'est déjà une bonne condition pour nous, les Chinois, de nous faire une idée de ce qui s'est passé réellement en France. Si l'on reste toujours attiré par une perspective globalisée et générale, notre perspective risque d'être figée dans un certain angle de vue habituel. Il est vrai qu'on peut percevoir bien des similitudes apparentes qui pourraient nous conduire à chercher une cause commune ou à croire à deux versions d'une même tempête ou à deux bouts du monde. Mais avant de passer à une certaine définition des faits, je pense qu'il est légitime de poser préalablement une simple question. Comment la Chine des années 60 du siècle dernier a pu entrer en résonance synchronisée avec les agitations françaises? Alors, pendant ces années-là, ce pays s'est enfermé dans une isolation presque hermétique. Y a-t-il vraiment une possibilité pour la France de la révolution culturelle de vivre ensemble un grand moment révolutionnaire mondial avec la population de notre pays? Pour répondre à ces questions, je ne propose pas une autre vision générale dans un autre cadre théorique, mais plutôt vous montre ce qui était su et senti au moment du mai 68 par les Chinois. Si l'on adopte cette approche, l'intitulé de mon exposé ne serait plus très exact, car pendant ces mois et ces années en question, les Chinois ne voyaient rien et ne sauraient voir quoi que ce soit du monde extérieur. Tout ce dont l'on disposait concernant les informations du monde, c'était des mots fabriqués, sélectionnés, filtrés, recomposés, finalement publiés dans les médias officiels. Or, les médias de l'époque pour le public chinois étaient essentiellement la presse écrite, et la presse écrite consistait en le quotidien du peuple et ses variantes locales. Sur les 6 pages que le quotidien du peuple publiait tous les jours, une page seulement était réservée aux nouvelles internationales, c'est-à-dire les dépêches qui décrivaient le monde hors de la Chine. Ces informations du monde, bien canalisées dans leur diffusion, faisaient partie du tableau général que le parti voulait faire croire et voir à son peuple. Par conséquent, par exemple, les Chinois de l'époque ne savaient pas que l'homme a foulé le sol de la Lune parce que l'information n'y avait pas figuré. Par contre, on lisait tous les jours des nouvelles sur les luttes anti-impérialistes de par le monde. La guerre victorieuse des Vietnamiens contre l'invasion américaine, les protestations dans les campus américains contre le gouvernement, les luttes des Palestiniens contre l'occupation israélienne, la guérilla insurrectionnaire des paysans en Amérique latine, etc., etc. Grâce à cette page du quotidien du peuple, les Chinois ont pu croire que de l'Europe à l'Amérique latine, des États-Unis à l'Asie, le monde entier était dans une situation révolutionnaire permanente de grande envergure. Et ce, depuis les années 50 déjà. Si l'éclatement du mai 68 a surpris tout le monde en Occident, y compris les étudiants parisiens eux-mêmes, ce n'était pas vraiment une nouvelle extraordinaire pour les Chinois. Quand les nouvelles des révoltes de Paris ont fait leur apparition sur les pages du quotidien du peuple, ils se trouvaient à côté des nouvelles de type, par exemple, « Le valeureux peuple vietnamien a battu au mois dernier plus de 400 avions militaires américains. » Ou encore, « Les héroïques combattants palestiniens ont tué dans une embouche plus de 300 soldats israéliens. » Ce sont les deux nouvelles qui étaient publiées juste avant les événements de 1968. Bien avant l'élaboration d'une certaine philosophie de l'histoire pour expliquer la cause du peuple dans le monde, nous avions déjà acquis la conviction à travers notre lecture quotidienne que le monde entier était derrière nous et que nous pouvions nous attendre à voir les révolutionnaires du monde entier se révolter un peu partout et à tout moment. Quand enfin les Parisiens, dignes héritiers de la grande tradition révolutionnaire de la Commune de Paris, ont décidé de reprendre le flambeau révolutionnaire à leur tour, ce tournant historique pour les Français est apparu comme un élément de plus dans une fixité révolutionnaire pour les Chinois. Le seul changement perceptible dans le paysage révolutionnaire médiatisé, c'est que pendant un peu plus de mois, le quotidien du peuple, dans son tableau habituel de la Révolution mondiale, a consacré plus de place aux nouvelles de Paris qu'à celles d'autres pays du monde. Donc, voilà, je peux vous montrer quelques images des pages du quotidien du peuple qui racontent toujours des situations révolutionnaires un peu partout dans le monde. Voilà, donc les nouvelles sur les mouvements étudiants, mais bien avant 1968. Hein.
Grenades lacrymogènes, donc rue Gay-Lussac. Les gardes mobiles, les CRS arriveraient, dit-on, et progresseraient vers les barricades de la rue Gay-Lussac en venant de Port-Royal. Les yeux piquent, c'est maintenant l'affolement, et tout le monde monte aux barricades, armé de pavés. Les mouchoirs se mettent sur le nez, et l'attention a d'un seul coup monté. Elle a monté au moment précisément où je voulais demander à des leaders étudiants, à tes porte-paroles, ce qu'ils pensaient des déclarations de Daniel Cohn-Bendit. Eh bien, à côté de moi, j'ai une étudiante ou un étudiant. Alors, que pensez-vous de ce qui se passe?
Il exprime exactement l'opinion de tout le monde ici. Il est évident que nous reculerons pas devant le gouvernement et nous restons ici jusqu'à temps que le gouvernement cède sur les trois points de l'UNEF.
Les trois points, rappelez-les.
Alors les trois points, c'est premièrement la libération de nos camarades qui sont en prison, deuxièmement la Sorbonne aux étudiants, et troisièmement l'évacuation des forces de police au quartier latin.
Donc tant qu'il y aura...
Une fois mis au centre de la scène, les événements français dans les médias chinois exigeaient bien naturellement un peu plus grand soin dans la présentation et un nombre plus abondant des informations. Abondance relative, bien entendu, dans le contexte des médias chinois à l'époque. Dès la première nouvelle de la révolte à Paris, avant d'entrer dans le vif du sujet, les médias officiels avaient déjà une interprétation toute prête pour ce qui se passait en France, et les faits racontés ne faisaient qu'à s'y accommoder. En effet, on a pu y trouver tous les éléments pour un récit classique d'une lutte révolutionnaire. Le premier élément d'un tel récit, c'est l'identité du leader. tout lecteur des œuvres de Mao sait l'importance que Mao a accordée au problème de leadership pour une lutte révolutionnaire. Donc, qui donc étaient les leaders aussi bien en théorie qu'en pratique de nos révoltés de la France? Qui étaient les principaux antagonistes de cette révolution populaire? Voilà. Le Code des peuples donne de la réponse. Côté révolutionnaire, lisez les lecteurs chinois, il y avait deux grands guides de la pensée que les jeunes révolutionnaires parisiens portaient très haut dans leurs manifestations. Lénine et Mao. Et davantage Mao que Lénine. Vous voyez, donc, surtout, Mao est au centre. Voilà, donc ce sont des rares photos que le quotidien du peuple a publiées lors de ses reportages sur les 1068. Hein, donc parce que sur ces photos-là, on voit le portrait de Mao. Et par cette photo publiée sur les pages du quotidien du peuple, le peuple chinois a pu bien croire que les Français partageaient notre culte, hein, notre culte, parce qu'on fait très vite le lien entre ces photos de Mao sur le mur de Paris et voilà les photos de Mao qu'on voit à l'époque tous les jours un peu partout. Hein. Donc on croyait que c'était à peu près la même culte. Mais par contre, jamais était mentionné le nom de Che Guevara ou de Léon Trotsky, parce que ces noms-là étaient pure horreur pour les auteurs de ces dépêches noires de Paris. Parce que, par exemple, en Chine, une simple lecture des ouvrages de Trotsky pourrait automatiquement vous amener en prison. Ni les fameux 3M n'étaient jamais racontés dans les reportages ou commentaires, parce que ce serait un sacrilège mortel de mettre en parallèle le nom d'un professeur bourgeois américain avec celui de notre grand leader. Il est clair que mettre en avant ces deux noms presque sacrés du bon leadership, Mao et Lénine, cela revient à fournir une caution morale au caractère révolutionnaire et prolétaire du mouvement de Paris. Bien évidemment, on comprenait aussi qu'il faudrait quelqu'un plus présent que Mao et Lénine pour diriger les luttes sur place. Selon le récit chinois du mouvement en France, ce rôle n'a pas été assumé par Daniel Gambendit, Alain Gaisma ou Jacques Sauvageau, ni par les camarades maoïstes de la rue d'Ulm. Ces noms étaient absolument inconnus en Chine pendant toute la durée des événements. Ni dans les reportages, ni dans les commentaires ou éditoriaux peut-on trouver un mot sur ces leaders des étudiants. Par contre, un certain Jacques Jurquet a été attribué une place d'honneur dans les pages du quotidien du peuple. C'est un nom que les lecteurs du quotidien du peuple connaissaient très bien dans sa fonction de secrétaire général du Parti communiste marxiste-léniniste de France.
Demande de l'Humanité Nouvelle, le journal des vrais communistes.
Vous connaissez les gens qui distribuent cette lettre ?
Bien, je pense que c'est les communistes pro-chinois de Marseille.
Et ils prétendent que l'EPC, le Parti communiste français, s'en bourgeoise. Et pour lutter contre cet embourgeoisement, ils ont préféré Pékin. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oh, je ne pense pas que ce soit une solution. Pékin a déjà bien du mal avec son communisme personnel. Je ne pense pas que ce soit applicable aux Français.
À Marseille, la ville de France où ils sont le plus représentés, quelques centaines, ils se sont groupés dans un cercle marxiste-léniniste. Leur porte-parole, M. Jurquet, explique pourquoi il a quitté le Parti communiste français.
À partir de quelle date le Parti communiste chinois vous est apparu à vous détenir la vérité ?
À moi personnellement ? Oui. Eh bien, c'est très précis. C'est à partir du moment où j'ai eu connaissance de ces thèses en 25 points, de ces propositions pour la ligne du mouvement communiste international en 25 points, propositions soumises par le comité central du Parti communiste chinois au comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. L'humanité quotidienne et le parti menaient une lutte ouverte contre les positions des camarades chinois. Et il se trouve que j'ai reçu un exemplaire de Pékin Information. Pékin Information est un hebdomadaire édité par le Parti communiste chinois, un hebdomadaire d'information politique. Alors, à la lecture de ce Pékin Information, c'est dans la période de juillet-août 1963, j'ai trouvé réponse aux nombreuses questions que je me posais sur le comportement de la direction de mon parti depuis quelque temps.
Le Collège de France et France Culture vous présente le linguiste chinois Chu Chaochan, mai 1968, vue de Chine.
On nous a dit que la bonne direction du mouvement était assurée par ce jockey, dont deux de ses articles, sous forme d'éditorial de l'Humanité Nouvelle, l'organe du PCMLF, ont été diffusés dans les médias chinois. Voilà, donc la premier article, deuxième article, toujours par ce jockey. Donc, il a publié deux de ses articles dans de très bonnes places, hein, dans le quotidien du peuple. Et dans ces deux articles-là, Jockey a donné les directives hautement importantes appelant le peuple révolutionnaire à bien apprendre la pensée de Mao et à continuer à lutter jusqu'à la victoire finale. Mais la description d'une révolution ne serait pas complète si on ne désignait pas les ennemis d'en face. L'ennemi principal pour les révoltés et les grévistes, selon le quotidien du peuple, ce n'était pas De Gaulle ni Pompidou. En effet, le journal chinois n'avait pas de mots très durs à l'encontre de ces deux hommes au pouvoir. On disait simplement qu'ils étaient débordés, avaient pris peur. Ni la violence policière n'était dénoncée comme la force adversaire majeure. L'ennemi désigné, dénoncé, condamné dans presque toutes les dépêches, éditoriaux ou commentaires sur les événements à Paris publiés par le quotidien du peuple, c'était le groupe révisionniste français. Une appellation bien connue au public chinois. En clair, il s'agissait du Parti communiste français. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'articles sur, vous voyez, si vous lisez chinois, Fa Xiu, c'est voilà, beaucoup, beaucoup d'articles pour condamner Fa Xiu. Voilà, encore une, hein, Fa Xiu, voilà. Le tableau que le quotidien du peuple a construit à travers ces soixantaines d'articles consacrés au mouvement de mai 68 en France, c'était essentiellement le récit d'une lutte entre, d'un côté, les masses révolutionnaires français sous la bonne direction du PCMLF, et l'autre côté, ces révisionnistes perfides qui n'avaient qu'une idée en tête, saboter la révolution. La trahison du CGT, le piège des négociations, les briseurs des rêves, l'impasse du compromis, la collaboration avec les forces de l'ordre, tout provient d'un âge méchant dans ce drame de 1968. Et il s'appelait Waldeck Rocher, secrétaire général du PCF de l'époque, qui, selon notre grand journal, faisait tous les efforts pour détourner le mouvement au profit du gouvernement bourgeois. Mais toujours selon le quotidien du peuple, le visage du traître était vite dévoilé et les vrais révolutionnaires dans la rue n'étaient pas dupes de ces jeux sournois du PCF. Dans un reportage de l'agence Chine Nouvelle, on nous a raconté comment Louis Aragon, membre de PCF, était conspué et chassé par les manifestants quand il tentait de s'emparer de micro et de prononcer ses propos trompeurs. Voilà, ça c'est justement cet épisode raconté dans une dépêche du quotidien du peuple. Je crois peut-être les biographes de Louis Aragon sont ravis de prendre cette anecdote. En plus de ces traites de PCF qui manigançaient dans les rues et dans les usines, les reportages du journal chinois n'ont pas oublié d'accuser un autre grand ennemi du peuple révolutionnaire, désigné sous le nom les révisionnistes soviétiques, c'est-à-dire l'Union soviétique. Si l'on en croit le quotidien du peuple, l'Union soviétique était un acteur majeur du mouvement de mai 68 en France. Un acteur ignoble et pernicieux qui, à travers ses acolytes du PCF, a porté une très lourde responsabilité pour l'échec du mouvement. Il y a beaucoup d'articles sous Chopin du Jitran. Donc c'est encore beaucoup d'articles sur l'Union soviétique. Le mai 68, que les Chinois lisaient pour être très curieux aux yeux des autres, a le mérite d'être clair et cohérent pour les lecteurs chinois. Deux antagonistes sur le terrain en face à face, le bon leader Juquet, qui gardait la pureté idéologique, et le mauvais Rocher qui gâchait la fête et sapait le mouvement populaire par sa trahison révisionniste. Derrière ces deux figures profilaient deux grandes lignes diagonalement opposées pour conduire la cause communiste mondiale. La bonne ligne, représentée par la Chine de Mao, fidèle à l'authentique tradition de la révolution d'octobre, et la mauvaise ligne, incarnée par l'Union soviétique post-stalinienne, devenue l'ennemi numéro un de la révolution mondiale. Si toutes les interprétations de l'événement implique nécessairement une certaine mesure de reconstruction des faits, et il ne manque pas d'exégèse curieuse de mai 68 depuis son éclatement inattendu, la présentation du mouvement mai 68 dans les pages du quotidien du peuple avait ceci de remarquable. Sa crédibilité était basée sur un mécanisme de projection. Parce qu'à travers le récit chinois du mai 68 français, on avait l'impression de voir rejouer la même pièce transportée sur la scène à Paris. Ce que le quotidien du peuple racontait des événements en France était en effet une copie avec des noms étrangers et inhabituels du discours sur la Chine que les Chinois entendaient tous les jours. Les personnages et leurs actions pendant le mouvement de mai 68, décrites dans les reportages chinois, s'intégraient parfaitement bien dans le tableau de la révolution chinoise que le peuple chinois était amené à croire depuis longtemps. On pourrait se demander pourquoi c'était le PCF et non pas la police, le gouvernement bourgeois ou le patronat français qui était la cible privilégiée dans les reportages chinois du mai 68. Alors, sur le moment, le PCF s'était fait remarquer plutôt par son inaction que son action. La raison en est à chercher dans le nouveau scénario de la révolution que le PC chinois a adopté depuis la fin des années 50 du siècle dernier. L'ennemi principal pour Mao n'était plus Kuomintang, ce parti de la bourgeoisie chinoise déjà vaincu et chassé du continent chinois, mais ses anciens camarades communistes de son propre parti. Comme les ennemis de l'autre camp, la bourgeoisie, les impérialistes, les réactionnaires de tous les pays allaient tomber de toute manière parce qu'ils étaient déjà au bout de souffle, selon Mao. Le plus grand danger maintenant, selon la nouvelle pensée de Mao, étaient les ennemis cachés dans son propre camp au sein du parti. Suivant ce nouveau programme de la révolution continue, les campagnes pour purifier le parti se sont succédées en Chine jusqu'à son paroxysme, la grande révolution culturelle, avec le numéro 2 du parti, Liu Shaoqi, désigné comme ennemi numéro 1 du peuple. Il est à remarquer que dans la presse chinoise, le secrétaire général du PCF, Rocher, et ses alliés étaient appelés traîtres et briseurs de grève. C'était exactement les mêmes thèmes qu'on utilisait pour condamner Liu Shaoqi pendant toute la révolution culturelle. En effet, le langage que le journal chinois a employé pour raconter les événements chinois était exactement celui utilisé pour mobiliser les masses pendant les événements chinois. Par cette terminologie identique et par une présentation de lutte entre un bon marxiste-léniniste et un mauvais révisionniste, le peuple chinois, le public chinois, pouvait donc reconnaître la même musique pour un même scénario. Un scénario très réducteur de combat manichéen. En effet, Vu l'origine sociologique assez homogène des participants du mouvement de 1968 en France, les jeunes étudiants et ouvriers d'une certaine tranche d'âge, les Chinois ont cru à y trouver la preuve qu'une seule idée était à l'œuvre en France. Tout comme les Français à l'époque ont cru percevoir dans la mobilisation des grandes masses hétérogènes de la révolution culturelle le signe d'une grande diversité inventive des idées révolutionnaires. Vu de la France, la grande foule déferlant dans les rues chinoises traduisait, pour les maoïstes enthousiasmés, une multitude créatrice des idées révolutionnaires. Et vu de la France, vu de la Chine, chaque côté des barricades parisiennes était naturellement tenu pour représenter une position idéologique simple et univoque dans une lutte tranchée. De Paris et de Pékin, à travers les récits de mai 68 et de la révolution culturelle, on se voyait dans un miroir le reflet de sa propre image. Dans l'esprit des lecteurs, le mouvement de mai 68 en France a incontestablement une connexion avec la révolution culturelle qui faisait rage alors en Chine. Pour faire bonne mesure à cette connexion, qui n'échapperait certainement pas aux observateurs d'alors, Pékin a organisé, au moment le plus intense des révoltes à Paris, ses propres manifestations gigantesques, d'abord dans les rues de la capitale, ensuite dans une dizaine de grandes villes à travers la Chine. Et ensuite, beaucoup de... Donc ici, à Pékin, donc 500 000, et ensuite devant Tiananmen, donc, et voilà, les soldats aussi manifestaient. Et voilà, donc, on fait appel au monde entier. Hein, pour, donc, il y a beaucoup de soutien organisé. Des centaines de milliers, voilà. Voilà, je crois, sur un reportage, une dizaine de millions. Hein, une dizaine de millions. 1,700,000, 17 millions manifestants. Qui défilaient en cortège serré pour manifester leur soutien à leurs camarades français. Tous ces signes extérieurs ont renforcé cette impression de connexion. À Paris et à Pékin, le même spectacle d'une grande foule dans la rue, les mêmes drapeaux rouges agités et quelques icônes apparemment identiques, Mao, Marx et Lénine, hissés en air par les mains des jeunes, et tout cela à peu près au même moment. Il y a donc de quoi nourrir une philosophie d'histoire globale et on croirait y voir s'esquisser une grande et unique révolution de la planète, un cas d'école de l'histoire mondiale avec grand H. Mais une question reste. Comment s'est construite la dimension du temps dans cet épisode de l'histoire mondiale? Est-ce qu'en réalité on vivait le même temps historique à Pékin et à Paris? Avec le recul, nous savons que quand les jeunes Français descendaient dans les rues pour défier l'ordre établi, la France était encore sur ses Trente Glorieuses qui a installé en France une société d'affluence. Alors que la Chine venait de sortir d'une gigantesque famine quand la révolution culturelle s'est survenue. En France, les étudiants en révolte réclamaient l'ouverture de leurs facultés fermé par la police. Mais en Chine, c'était Mao et ses gardes rouges qui ont fermé toutes les universités et les lycées du pays pendant de longues années. Une fois passé le moment des troubles révolutionnaires, ces deux sociétés se sont tournées vers deux avenirs sans commune mesure. Les 68ards français poursuivaient ensuite chacun son propre destin dans une société plus tolérante et plus ouverte. Tandis que tous les gardes rouges, tous les jeunes révoltés des premières heures de la révolution culturelle, leur utilité usée, ont été par la suite envoyés, contraints, forcés à la campagne lointaine pour ne pas troubler la fête du 9e congrès du parti en 1969. La France de post-1968 était marquée par une forte aspiration de l'autonomie individuelle, par une revendication des droits de l'homme et par une affirmation des identités minoritaires, tandis qu'en Chine, Sous la pulsion de mort, les autorités poursuivaient une radicalisation du fondamentalisme léniniste qui étouffait toute expression de la liberté individuelle. Il y a peut-être une simultanéité des événements chinois et français en mai 68. Mais je pense qu'on n'est pas fondé à croire que les deux pays ont vécu un processus parallèle dans un temps historique commun. L'historien allemand Jürgen Osterhammel signale qu'en insistant sur la simultanéité ou la synchronie, les adeptes de l'histoire mondiale tendent de mettre en avant l'espace au détriment du temps. Ceux qui croient encore aujourd'hui dans les mouvements de Paris et Pékin, un certain mouvement de révolution mondiale partagé entre les gardes rouges et les révoltés français, ont effectivement substitué l'espace au temps. Une histoire de l'espace a remplacé une histoire du temps, car ces deux pays en question étaient et sont toujours sur deux axes temporels très différents et très distincts. Il n'existe en effet qu'un vaste espace d'un bout à l'autre du continent eurasiatique, et cet espace que les deux mouvements étaient appelés à partager avec des mots interposés a servi surtout d'un lieu de regard croisé.
Jean-Vincent, qui est à Pékin, le correspondant de l'agence France Presse, l'AFP, nous aide à comprendre ce matin l'ambiance actuelle de Pékin.
C'est une grande manifestation de masse. Il y a un monde fou.
Quand les révoltés français jetaient le regard vers la Chine, ils y voyaient une révolution d'une très grande originalité par rapport au modèle soviétique sclérosé. Mais cette révolution chinoise flamboyante dans les rues a bien caché une autre révolution de la tactique. Simon mérite sa réputation d'un dialecticien accompli. La preuve réside dans son approche de faire le désordre le moyen le plus efficace d'imposer son ordre, de faire la destruction de l'appareil d'État la façon la plus sûre de garantir son règne, et l'anarchie, la forme sans faille de l'absolutisme. Parce que la grande découverte de la doctrine qui porte son nom est que le système policier le plus développé ne vaut pas, en ce qui concerne l'efficacité, une idéologie transformée en foi de masse. Mais le regard de Paris ne pénétrait pas cet aspect de la réalité chinoise. De même, le regard chinois ne portait jamais sur l'aspect libertaire de la révolte des jeunes français. Ce célèbre slogan du mai 68, je crois que j'ai quelque... Voilà, il est interdit d'interdire, imagination au pouvoir, sur le pavé la plage, etc., était totalement absent dans les récits chinois du mouvement. S'ils avaient été connus au public chinois, ils auraient apparu incongrus, sinon complètement incompréhensibles. Pour les Chinois de la révolution culturelle, une révolution, si le mai 68 en était une, impliquerait nécessairement une pureté de pensée, une austérité morale et une discipline de fer. Car dans l'esprit des Chinois, une révolution n'est autre que l'inauguration d'un nouveau monde purifié des vices bourgeois, au premier chef, le libertinage sexuel. On ne nous a jamais dit que c'était l'envie d'entrer librement dans le dortoir des filles qui a déclenché le mouvement. En effet, Les revendications des jeunes Français pour plus de liberté individuelle ont souvent mis les journalistes du quotidien du peuple dans certains embarras. En rédigeant leurs reportages, ils eurent parfois recours à des termes très vagues. Par exemple, à propos justement de cet incident du dortoir, on a pu lire, les étudiants français se sont mis à protester contre un système éducatif pourri. Ben, c'est tout. Dans le langage officiel en Chine, révolution, révolution libidinale ne peut qu'être un cas d'oxymoron. Si le regard vers la France de 1968, vers ses barricades parisiennes, valait bien ses pages du quotidien du peuple, c'était bien pour son potentiel d'exhortation à une plus grande dévotion à la cause révolutionnaire, à un plus grand sacrifice de la part des individus. En somme, quand le regard des Chinois était tourné vers le mouvement de mai 68 en France, ils ont vu des mots et bien des choses glissées entre les mots dans un trou noir. On ne nous disait pas comment les manifestants français se sont mobilisés et quelles étaient leurs revendications et leurs aspirations personnelles. De même, quand les maoïstes français se réjouissaient du soutien chinois à leur cause, ils ignoraient sans doute le fait que toutes ces manifestations de soutien ont été organisées et dirigées. Le nombre des participants, les routes à prendre, les drapeaux, les pancartes, les slogans acclamés et le déroulement national à Pékin, à Shanghai et ensuite quelques chefs-lieux provinciaux avaient été tous planifiés par les autorités du parti. Voilà, vous pouvez voir quelques images de ces manifestations. Ce sont des slogans dictés. Hein. On ne pouvait que clamer ces slogans par les autres. Et donc voilà aussi une liste des slogans pour ces manifestations du soutien. Voilà, vous voyez, les manifestations sont très organisées, hein, même disciplinées comme les militaires. Quand je vois ces photos, ça me rappelle quelques dessins de Cabu. Qui montre plutôt l'autre image de la société. Ces faits et bien d'autres qui tombent dans le registre du réel n'ont pas eu l'attention de ceux qui avaient la mission de nous présenter et de nous faire comprendre les grands moments historiques. Les journalistes du moment et les historiens, les analystes des pays ont l'habitude de travailler avec des concepts abstraits tels que la révolution, les divers ismes, dans une dimension théorique séduisante qui permettrait de parler de la révolution culturelle chinoise et du mai 68 français dans un même discours. Ce qui a le plus mal à émerger, c'est le vécu de tout un chacun qui apparaîtrait trop trivial, insignifiant, sordide et difficile à construire dans une rationalité universelle. Certes, il y avait une théorisation grandiose et sans doute original qui a accompagné la révolution culturelle. Mais l'horrible violence à l'encontre de ses victimes ne pourrait pas être expliquée par ces concepts abstraits. Je vous montre quelques petites images de la violence de l'époque, mais ce ne sont pas les plus horribles, hein, les persécutions des gens. Donc, qu'est-ce qu'on peut expliquer cette grande violence horrible qu'on a constatée pendant la révolution culturelle? C'est peut-être dans un registre peu présentable, on pourrait apercevoir un petit peu les motifs de ces persécuteurs. Par exemple, ici on voit l'image de Jiang Qing, Madame Mao, donc très en forme, épanouie. Hein. De l'autre côté, la femme de Liu Shaoqi humiliée publiquement, donc ce n'était pas le plus atroce supplice qu'elle a subi. Donc ce genre de violence pourrait peut-être expliquer par des choses qui ne sont pas très présentables. Parce qu'on dit que Madame Mao, Jiang Qing, a très mal supporté que Huang Guangmei, c'est-à-dire cette dame, la femme de Liu Shaoqi, Huang Guangmei lui a volé la vedette lors de ses visites d'État à l'étranger à la veille de la grande révolution culturelle. bien entendu. Ce sont des on-dit mesquins relevant du bas instinct, qui n'ont pas de place dans les grands récits historiques et deviennent complètement invisibles à une certaine distance. Mais la réalité de ce réel ne disparaît pas pour autant, la perception du monde ne saurait être complète sans ses oublis et ses ignorés. À nos jours, voilà, on revient à l'actualité. 50 ans après, qu'est-ce et comment les Chinois voient encore le 1068 de cette Chine contemporaine, préoccupée non plus par la révolution, mais par la puissance économique, bien des choses ont changé dans sa vision du mouvement français. Dans cette nouvelle vision, l'ordre, l'idéologie, la révolte ont tous trouvé un autre sens. Un autre agenda et un autre besoin de discours de notre leader ont guidé le regard du peuple à chercher d'autres affinités, d'autres ressemblances dans ce tableau de 1068 qui se résume, je crois, par deux forces face à face séparées parfois par une barricade. La Chine aujourd'hui a du mal, en fait, à choisir un camp et à rejeter l'autre. Elle a une très grande sympathie pour les forces de l'ordre, parce que l'ordre et la stabilité est devenue la pierre de voûte de sa politique intérieure. Mais pour le camp d'en face, les révolutionnaires, la Chine ne veut pas non plus rompre avec cet héritage idéologique de Marx à Mao, parce que l'orthodoxe maoïste s'est retrouvé plutôt considérablement renforcé ces derniers temps. Ce qui gêne, ce que l'on préfère ne pas voir, c'est cette barricade au milieu entre ces deux forces révolutionnaires et forces de l'ordre. En effet, on fera tout maintenant pour l'empêcher de sortir de la terre. Dans cette vision du mai 68, dans cette parabole moderne, la question pour la Chine d'aujourd'hui est simplement celle-ci. Peut-elle réussir à combiner les deux forces à sa disposition afin de continuer à vivre ces 30 glorieuses? Voilà, je vous remercie.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 7 juin 2018 la conférence de Chu Chao-chan, mai 1968, vue de la Chine. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Chu Chao-chan a publié « De quoi la révolution culturelle est-elle le nom ?» dans la revue Perspective chinoise en avril 2016. Réalisation Delphine Lemaire. Présentation Meryl Meneghetti. Un grand merci aux équipes de l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. En cette fin de saison, je tiens à remercier chaleureusement les professeurs et les équipes du Collège de France. Et c'est aussi avec émotion que je remercie Anne Sécheret, merveilleuse réalisatrice qui part à la retraite. Depuis une dizaine d'années, elle a passionnément mis en onde les cours du Collège de France, d'abord aux côtés de Christine Goémé, que je salue, puis à mes côtés depuis 2016. Rendez-vous après la grille d'été pour une nouvelle saison des cours du Collège de France. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.